Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis Jeanne et vous écoutez Basilic, le podcast consacré à l'environnement et aux initiatives positives. Du biologique à l'écologique, du zéro déchet à l'upcycling, de l'associatif à l'entrepreneuriat, vous découvrirez un nouvel invité qui nous partagera son parcours, ses actualités et ses projets. Vous pouvez retrouver les précédents épisodes de Basilic sur votre smartphone, dans votre application de podcast ou bien évidemment sur notre site internet basilicpodcast.com. Bonne écoute à tous! Cette semaine, je reçois Madeleine Morlet, cofondatrice de Tomojo. Madeleine et son acolyte Paola ont cherché à limiter l'empreinte écologique de nos chers animaux de compagnie en leur proposant des croquettes à base d'insectes. En France, on ne compte pas moins de 13,5 millions de chats et 7,3 millions de chiens. Lorsque l'on sait l'impact qu'a la production de viande sur l'environnement, on peut facilement imaginer l'empreinte carbone de nos animaux, qui sont bien souvent nourris avec des croquettes à base de poulet, de bœuf ou de canard. Dans cet épisode, Madeleine vous explique comment son chien Mojo lui a inspiré cette idée. Elle revient également sur leur expérience avec Paola au sein du programme Entrepreneur de Ticket for Change, grâce auquel elles ont réellement osé se lancer dans l'aventure Tomojo. J'espère que cet épisode vous plaira, que l'insouciance et la spontanéité de Madeleine vous aideront à mener à bien le projet qui vous tient à cœur et surtout vous permettront de vous lancer. Très bonne écoute à tous! Bonjour Madeleine.
Bonjour.
Donc tu travailles pour Tomojo, qui est une entreprise qui fabrique des croquettes pour animaux un peu spéciales. On va voir ça un peu plus tard. Je suis très contente de te recevoir, parce que moi j'ai un chat que j'adore depuis 6 ans. Et je trouve ça très intéressant en fait de repenser l'alimentation pour les animaux de compagnie et d'essayer de l'orienter vers quelque chose de plus durable, quelque chose de plus écologique. Est-ce que, avant de nous parler de Tomojo, tu peux d'abord te présenter et ensuite expliquer un petit peu aux éditeurs quels sont les problèmes finalement avec la nourriture pour animal qu'on peut trouver en supermarché et voilà, l'impact au niveau environnemental, etc.
Ouais, très bien. Donc, je m'appelle Madeleine, j'ai 27 ans et je suis franco-anglaise. Donc, j'ai vécu la moitié de ma vie en Angleterre, la moitié à Paris et j'ai fait des études d'économie et de développement durable. Et c'est pendant mes études de développement durable que je me suis penchée sur la question des protéines insectes, parce qu'en fait, on nous a beaucoup parlé des insectes comme protéines alternatives. Ils nous disaient aussi, nos professeurs, que d'ici 25 ans, on allait tous devoir en Occident manger des insectes. Et sachant qu'à l'époque, moi, j'étais déjà végétarienne, slash flexitarienne de temps en temps, je me suis dit, moi, je me sens pas très concernée. En revanche, mon chien... Donc le chien de ma famille à l'époque, Mojo, qui habite à Londres, il a un impact énorme sur l'environnement. C'est pour la partie l'environnement, j'étais toujours dans le développement durable.
T'as baigné dans ce milieu.
Ouais, et j'étais vraiment destinée à avoir une carrière dans le développement durable, mais je ne pensais pas me lancer dans les croquettes un jour.
Tu as fait tes études à Londres?
Ouais, j'ai fait un master en sciences de l'environnement avec mon associé en fait, Paola. On était toutes les deux dans le même master et c'est vrai qu'on avait vraiment envie d'entreprendre ensemble. Donc voilà.
Ok, cool.
Et je me souviens plus le reste de ta question.
Et donc, donc te présenter, c'est très bien. Et après, je voulais savoir un peu l'impact qu'ont les croquettes traditionnelles.
Donc en fait, quand on s'est penché un peu plus sur les croquettes que je donnais à manger à Mojo, je me suis rendu compte de deux choses. Soit je lui donnais des croquettes de bonne qualité, donc c'est-à-dire avec de la viande de qualité premium, donc en anglais ils appellent ça human grade meat, mais du coup ce qui fait que Mojo avait un impact carbone équivalent à une Twingo, sachant que c'est un chien qui pèse 50 kilos, donc il mange assez conséquemment. Et de l'autre côté, soit je lui donne des croquettes qui coûtent moins cher, qui sont de moins bonne qualité, mais du coup, aucune traçabilité. Souvent, c'est des sous-produits de viande, on n'a aucune idée d'où ils viennent. Et en fait, il y a souvent l'argument qui revient, les gens nous disent « Oui, mais si on n'utilise pas ces sous-produits de viande, qu'est-ce qu'on va en faire ?» Et en fait, il n'y a vraiment pas assez de sous-produits de viande pour nourrir les chats et les chiens en France, en Angleterre. Du coup, ils importent des sous-produits d'autres pays. Et donc tout ça, pour moi, ça n'a aucun sens. Surtout si on part du principe que d'ici quelques années, on va devoir manger moins de viande. Donc il y aura moins de sous-produits de viande. Et je pense qu'il y aura toujours autant d'animaux de compagnie.
Peut-être même plus.
Ouais. Peut-être même plus, ouais.
qu'est-ce qui compose normalement une croquette, que ce soit pour chien ou pour chat? Quels sont les ingrédients phares qu'on retrouve à peu près dans tous les paquets?
Alors, donc il y a des protéines, des sources de protéines, donc c'est soit animal, il y a certaines croquettes véganes où c'est que des protéines végétales. Il y a souvent aussi un mix, comme les nôtres, protéines animales et végétales. Ensuite, il y a des légumineuses qui apportent des fibres. Il y a des graisses, donc animales ou végétales. Et il y a des cendres. Donc il y a pas mal de personnes qui nous demandent mais pourquoi il y a des cendres dans les croquettes. En fait, c'est nécessaire à la santé du chien ou du chat. Et pour les chats, il y a en plus de la taurine qui est un élément important pour les chats. Les chats, ils n'en ont pas besoin. Et il y a aussi des minéraux. Donc on rajoute pas mal de minéraux qu'on ne trouve pas dans le reste des ingrédients.
Et toi, avec tes études, tu avais ce parcours un peu scientifique qui te permettait d'analyser les croquettes ou pas tellement, tu as dû te former?
Pas du tout. Ni Paola, mon associée, ni moi, on avait un parcours agro. Donc en fait, ce qu'on a fait dès le début, c'est qu'on s'est entouré de personnes qui s'y connaissaient. Donc on est allé voir AgroParisTech à Paris, notamment pour se rapprocher d'un spécialiste en protéines insectes, mais aussi pour un peu rentrer dans le monde agro. Et c'est comme ça qu'on a trouvé des chercheurs d'AgroParisTech, enfin des étudiants en fin de cursus, qui nous ont aidés à faire de la R&D et qui, eux, s'y connaissaient beaucoup mieux en termes de nutrition animale. Et après, on a aussi trouvé un vétérinaire spécialisé en nutrition animale qui nous a aidés à formuler nos propres recettes, parce que nous, on était vraiment incapables. Et on a aussi beaucoup travaillé avec le vétérinaire de l'usine de fabrication avec laquelle on travaille. Donc voilà, donc on est épaulé par plusieurs vétérinaires qui nous aident à formuler.
Oui, parce que tu ne peux pas faire n'importe quoi quand il s'agit d'alimentation.
C'est hyper important, ouais.
Et donc, protéines, ça c'est indispensable pour tous les animaux, que ce soit les chiens ou les chats. Et donc, vous avez eu l'idée de remplacer ces protéines animales par des protéines d'insectes. Normalement, j'imagine que les sous-produits, ça va être du bœuf, du porc, du poulet.
Ouais, alors en fait, nous, on remplace des protéines animales conventionnelles parce qu'en fait, les insectes, c'est des animaux. Enfin, on l'oublie souvent, mais
bien sûr,
c'est des protéines animales. Donc, ouais, nous, on remplace, il y a surtout dans les croquettes, en fait, du poulet, il y a du saumon. Et en fait, moi, j'aime bien l'exemple du saumon parce que, enfin, personnellement, je trouve que la façon dont les saumons sont élevés, enfin, en fait, c'est sous l'eau, donc c'est un peu plus obscur, mais c'est... Enfin, il y a plein d'antibiotiques et tout, et je pense que si on voyait comment ces saumons étaient élevés, nous-mêmes, on voudrait pas trop manger, mais moi, j'aimerais pas trop donner ça à manger à mes animaux de compagnie, d'autant plus des sous-produits de saumon, donc. Et ouais, donc poulet, saumon, agneau, il y a certaines croquettes à l'agneau. Mais en fait, le bœuf, c'est surtout pour l'alimentation barf, enfin fraîche. Donc, il y a pas mal de nouvelles start-up, de marques qui lancent des plats tout préparés avec des légumes et du bœuf frais. Et ça, c'est le pire du pire pour l'impact environnemental.
Quand tu parles d'impact environnemental, de quoi tu parles exactement?
Alors en fait, on a fait notre propre étude d'impact cet été. On s'est rapproché d'une chercheuse de Imperial College, donc notre ancienne université avec Paola, et elle nous a fait une analyse de cycle de vie. Donc en fait, on a regardé trois indicateurs. Donc c'était l'espace agricole, les émissions de gaz à effet de serre et l'eau. Et donc, en fait, on a comparé notre croquette, la composition, par rapport à une composition premium, parce que nos croquettes sont assez premium, avec un taux de protéines similaire, avec de la viande de poulet et de bœuf. Et en fait, c'était assez intéressant, parce que, par exemple, pour le 2 kg de chien, de croquettes pour chien, donc ça émet 20 kg de CO2 en moins, par rapport à des croquettes au bœuf, par exemple. Et ça nécessite 13 mètres carrés de surface agricole en moins par rapport à des croquettes de bœuf. Et ce qui est intéressant, c'est le poulet, par exemple, c'est à peu près similaire pour le chat, parce qu'en fait, entre le chat et le chien, il n'y a pas exactement la même protéine d'insectes, il y a plus de protéines dans les chats que dans les chiens. Enfin bon, voilà, il y avait des petites subtilités à prendre en compte. En règle générale, nos croquettes émettent et ont un impact écologique moindre sur l'environnement que n'importe quelle croquette premium du marché.
Et tout ça grâce à cette farine d'insectes, en fait.
Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, les insectes qu'on utilise sont élevés en Hollande. Et ils ont la capacité à digérer des coproduits agricoles. Donc, on valorise des déchets agricoles qui ne sont pas utilisés dans l'agriculture humaine. Et donc, ces insectes, pour grandir, ils ont besoin de très peu d'eau, de ressources en eau. Ils sont élevés dans des fermes, en fait, certifiées, construites exprès pour l'élevage d'insectes. Et ça demande beaucoup moins d'espace agricole que, par exemple, les animaux, enfin les bœufs, les poulets qui sont élevés. Ça dépend des poulets parce qu'il y en a qui sont élevés en poulailler, mais si c'est des animaux qui sont élevés
en batterie,
ouais, ça demande beaucoup plus d'espace à produire et de l'eau aussi. Enfin, les animaux, ça a besoin de beaucoup d'eau pour être nourris. Et aussi, un truc qu'on essaye de mettre en avant, c'est qu'on n'utilise pas d'antibiotiques. Enfin, il y a plein d'animaux comme ça qui sont élevés dans des chaînes de production et. Comme ils tombent malades, on est obligé de leur donner plein d'antibiotiques. Et ça, ces antibiotiques, ils se retrouvent dans nos nourritures, quoi. Donc voilà, donc c'est, moi, je trouve une protéine bien plus saine pour mon chien et aussi pour la planète.
Comment elle t'est venue, cette idée de remplacer avec des protéines d'insectes ? Tu connaissais déjà, tu mangeais déjà des insectes ? Je sais qu'il y a différentes marques qui en commercialisent.
Alors non, quand j'ai eu l'idée, enfin, j'ai cru que c'était une super idée révolutionnaire parce que je me suis dit personne l'a eu. En fait, il y avait déjà deux marques, mais pas très connues sur le marché et qui elles avaient une autre gamme de produits. Elles faisaient pas que des croquettes aux insectes, mais en fait j'ai eu l'idée parce que un jour j'ai lu un article de The Scientist, donc c'est un magazine scientifique et cet article disait qu'en Occident, on allait devoir manger de plus en plus d'insectes ou switcher vers des régimes plant-based, végétaliens. Et ce soir-là, j'étais avec mon petit frère qui a 9 ans de moins que moi. Et lui, il me dit, je préférais devenir végétarien que devoir manger des protéines d'insectes. Et c'est là où Mojo, donc notre chien familial, comme à la fin de chaque repas, il essaye de grappiller des restes. Et c'est là où ça fait tilt dans ma tête. Je me suis dit, je comprends totalement que nous, personnellement, on n'a pas trop envie de substituer notre bœuf, notre côte de bœuf par des insectes. Mais je suis sûre que Mojo, dans ses croquettes qui sont sèches, il ne verrait même pas la différence. Et donc, c'est parti de là. Et donc, j'en ai parlé à Paola. Et Paola m'a dit, pour une fois, c'est peut-être pas une idée si bancale que ça, parce qu'on avait souvent des idées comme ça, on avait vraiment envie d'entreprendre ensemble, mais ça tenait vraiment pas trop la route. Et donc là, on a commencé à faire des petites recherches, et ouais, il y avait une marque allemande, une marque hollandaise, mais comme je disais, c'était plutôt un positionnement vétérinaire, et c'était pour des chiens qui avaient des problèmes spécifiques, hypoallergéniques, et en aucun cas, il y avait des croquettes pour chats.
Et est-ce que vous avez cherché en parallèle à avoir une certification ou proposer, des croquettes bio avec votre farine d'insectes, évidemment ?
Ouais, donc au début, quand on a essayé de faire notre propre recette avec Paola, on avait un cahier des charges hyper long. Et rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de trucs qu'on allait devoir enlever de la liste parce qu'en fait, par exemple, la certification bio, donc bien entendu, on voulait l'avoir. Mais quand on s'est rapproché de plusieurs fermes d'insectes, ils nous ont dit c'est quelque chose que nous, on doit obtenir. Mais pour l'instant, l'UE ne l'autorise pas. Enfin, la farine d'insectes n'est pas certifiée bio. Donc du coup, c'est impossible pour nous d'avoir une croquette aux insectes certifiée bio. Ou alors, il faut faire une dérogation auprès du ministère de l'Agriculture et je leur avais écrit, j'ai jamais eu de réponse. Enfin, c'est assez compliqué, je pense, comme processus. Donc non, on attend que les fermes d'insectes aient des agréments.
Ce qui devrait venir en général.
Ce qui devrait venir, ouais.
Ça devrait venir assez rapidement. C'est parce que c'est nouveau
aussi, ouais. Ouais.
Au départ, vous avez fait vos propres mixtures pour essayer de proposer à Mojo. Est-ce que Mojo a été le cobaye
Ah ouais, Mojo a été le cobaye big time. En fait, au début, on a participé à un programme qui s'appelle Ticket for Change. Et donc, on a fait ça pendant 6 mois. Et à la suite de ces 6 mois, ils nous ont dit, maintenant, vous n'avez plus qu'à tester, quoi. Ça ne sert à rien de partir faire de la R&D pendant un an si vous n'êtes même pas sûr que les clients sont prêts à acheter des croquettes aux insectes pour leur chien. Du coup, on s'est dit, très bien, on va commander de la farine d'insectes sur Internet, ce qu'on a fait. Et on a trouvé une recette de croquettes sur Internet. On a mélangé tout ça, on a échangé la protéine animale conventionnelle par des insectes et on a fait ça dans la cuisine de notre associé. Et ça ressemblait plutôt à des gâteaux apéritifs, mais bon, c'était pas si mauvais que ça. On en a goûté plusieurs et on a mis plein de curcuma. Et après, on est allé distribuer ça au bois de Boulogne, au bois de Vincennes et au but de Chaumont. Et on avait mis ça dans des petits sachets et tout. Et on avait des gamelles et on demandait aux gens s'ils voulaient en acheter. Et c'est là où on s'est dit, enfin, ouais, il y a quand même un certain intérêt parce que bah, les personnes, elles avaient pas l'air si dégoûtées que ça. En fait, on avait peur que les gens soient vraiment repoussé par l'idée de donner des insectes à leurs chiens et surtout qu'on voyait que les chiens ils aimaient ça quoi, même si c'était nous qui les avons fait avec nos propres petites mains. Donc ouais, c'était vraiment encourageant et comme quoi il faut pas forcément faire un an d'R&D avant de savoir si un chien va manger des croquettes ou pas quoi. Après bon, je le conseillerais pas, on n'allait surtout pas commercialiser grande échelle, mais c'était déjà pour faire un test, c'est tout ce qu'il faut quoi.
Pour se faire une idée. Et après vous avez dû trouver une usine.
Alors ensuite, ce qu'on a fait, c'est que on a trouvé une usine en Hollande qui avait sa propre recette de croquettes aux insectes. Et comme faire sa propre recette, c'est très 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 long, il faut faire des tests, il faut formuler, enfin voilà, on s'est dit, on a envie de tester le marché d'une façon un peu plus sérieuse que juste dans trois parcs à Paris. Et donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté à cette usine de production des croquettes et on a commencé à les vendre en ligne sur notre site internet. Donc c'était en marque blanche en fait. Et bon, là, c'était une recette qui était assez appréciée, elle remplissait pas tout dans notre cahier des charges, mais c'était déjà un début. Et en parallèle, donc, on s'est rapproché de vétérinaires spécialisés en nutrition animale qui nous ont aidés à formuler notre propre recette. Et après moult essais et de sourcing à droite et à gauche de farine d'insectes, parce qu'en fait, une des difficultés qu'on a rencontrées, c'est notre usine de fabrication donc, à Castres, enfin avec laquelle on travaille. Ils n'avaient pas l'habitude de trouver de la farine d'insectes, donc c'est nous qui avons cherché de la farine d'insectes. Et pourquoi j'ai raconté ça ? Eh bien oui, bah, y avait des... Enfin, en fait, on a aussi eu des difficultés de sourcing puisqu'il y avait pas mal de fermes d'insectes qui, en ce moment, ont beaucoup de demandes. Donc il n'y a pas que la pet food, en fait, les insectes ils sont aussi utilisés pour l'aquaculture. Il y a aussi de l'huile d'insectes qu'on voulait utiliser dans notre recette qui est utilisée pour la pharmacie. Dans des produits de beauté. Donc ça, c'était vraiment un challenge en soi. Et donc une fois qu'on a sourcé cette farine d'insectes, on l'a testée. Et en fait, une des difficultés aussi, c'était que les personnes dans l'usine de production, ils n'avaient pas l'habitude de travailler avec la farine d'insectes et ce n'est pas les mêmes propriétés quand on les fait chauffer, quand ils passent dans l'extrudeuse pour devenir une croquette. Donc on a dû faire pas mal de tests. Et on a eu pas mal de chance parce que ça a marché du premier coup. Et la recette est appréciée par Mojo et plusieurs centaines d'autres chiens. Donc ouais, c'est vraiment cool.
Et donc vous avez d'abord développé pour les chiens.
D'abord pour les chiens. Et en juin, là, on a lancé une recette pour chats. Et en fait, pourquoi on a fait d'abord les chiens, ensuite les chats, c'est parce que tout simplement, les chats, c'est plus facile. Ils ont un palais moins fin que les chats. Par exemple, pour vous donner une idée, quand on doit lancer un produit sur le marché, on doit faire tester le produit pour être sûr que ça ne va pas empoisonner nos amis, les chiens et les chats. Et donc là, on a fait tester sur un panel de 100 chiens pour 300 chats. Donc le ratio, c'est 1 sur 3 pour avoir quelque chose de statistiquement représentatif. Et en fait, les chats, ils se fient pas que à l'odorat comme la plupart des chiens. C'est aussi à la sensation en bouche, au goût. Enfin, il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte alors que les chiens, c'est un
gourmets.
Peu plus... Ouais, c'est vraiment beaucoup plus gourmet. Donc voilà, mais on a lancé en juin pour chats. Et pour l'instant, on a eu un très bon début. Il y a quasiment deux fois plus de chats en France que de chiens. C'est assez encourageant. On a plein de gens qui sont pour l'instant dans des régions plutôt urbaines pour les chats et plutôt en province pour les chiens, ce qui est en fait assez logique.
Oui, c'est logique. Et donc, une fois que vous aviez votre recette de croquettes, finalement, vous avez continué à la vendre sur votre site. Vous aviez déjà lancé le site en marque blanche, donc c'était plus facile aussi.
Oui. Bah, en fait, Donc on a lancé notre site en mars 2018 et donc pendant un an on a vendu notre première recette et en parallèle on a formulé notre propre recette et on a fait une V2 de tout en fait, une V2 de la marque, donc on a changé de nom, une V2 de l'identité visuelle, on a changé de site, on a changé de packaging, on a maintenant des packaging biodégradables. Ce qui n'était pas le cas avant, donc voilà, on a tout fait mieux, ce qui est normal en fait quand on lance une startup, et voilà, une V2 de la composition, on a augmenté le taux de protéines, on a essayé de sourcer un maximum d'ingrédients français pour réduire notre impact écologique, donc la fabrication est dans le sud de la France et les insectes viennent de Hollande, faute d'avoir pu les sourcer en France parce qu'il y avait une pénurie. Ouais, voilà.
Ça viendra pour la France.
Ouais.
Et quand tu parles d'insectes, c'est quoi en fait comme insecte ? Des grillons ?
Sinon, alors pour le feed, il y a deux types d'insectes. Donc il y a les mouches de la noire et les ténébrios. Nous, on utilise les deux. Donc les mouches de la noire, elles sont sous forme de larves et les ténébrios, c'est des petits vers en fait, des vers. Ténébrio molitor. Voilà. Je ne sais pas ce que je pourrais ajouter.
Non, mais c'est intéressant parce que ouais. Je sais que pour les humains, justement, se fait la commercialisation de grillons. Il me semble que c'est des grillons séchés, des petites larves, etc. Et donc, je me demandais si pour les chiens,
ouais,
les chats, c'était pareil.
En fait, pour les humains, c'est plutôt des criquets, des grillons. Et en fait, c'est des insectes qui sont plus difficiles à élever. Donc, il coûte beaucoup, 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 beaucoup plus cher. Alors que le feed, enfin, la mouche de la noire, ça s'élève assez facilement. Ça a des cycles de vie très courts. Et c'est assez robuste, en fait, comme insecte. C'est moins fragile que certains insectes. Bah, c'est moins fragile que le ténébrio aussi.
D'accord.
Donc, ça coûte moins cher que le ténébrio à élever.
Ok, très intéressant. J'imagine que tu ne connaissais pas du tout tout ça à
non,
la fin de tes
pas
études.
Du tout.
Et que maintenant tu maîtrises le sujet des farines d'insectes. Et à ton avis, pour les consommateurs, c'est l'argument plutôt écologique ou l'argument sanitaire qui impacte le plus ?
Franchement, on a vraiment des deux. On a des personnes qui sont trop contentes de pouvoir donner des croquettes écologiques à leurs chiens ou à leurs chats. Qui s'intéressent à l'alimentation de leur chien ou de leur chat, mais c'est pas non plus quelque chose de très important pour eux. Et à l'inverse, on a des gens qui sont très très à cheval sur la composition. Ils demandent une certaine traçabilité. Ils veulent savoir pourquoi on a choisi tel ou tel ingrédient. Enfin, voilà, et eux pour le coup, ils sont très attirés par le côté traçable et aussi l'aspect santé de la protéine en elle-même, puisque c'est une protéine animale qui est très bien digérée par nos animaux de compagnie. Il y a un profil d'acide aminé intéressant, il y a plein de minéraux. Et en fait, récemment, jusqu'à présent, les gens nous demandaient « Est-ce que vous avez des études scientifiques qui prouvent que c'est bon pour les animaux de compagnie ?» Et c'est vrai que c'était un peu un frein pour nous, parce que à part la preuve que mon Mojo se porte très bien et que Mouche, mon chiot que j'ai adopté depuis, se porte très 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 bien, on n'avait pas vraiment de preuves scientifiques. Et là, récemment, il y a des vétérinaires anglais qui ont publié une étude comme quoi les protéines d'insectes seraient mieux pour nos animaux de compagnie qu'un steak frais de bœuf, ce qui est en soi vu comme le saint graal de l'alimentation pour chiens ou pour chats. Donc ça, on est vraiment très très contents. Il y a plein de choses qui avancent à ce niveau-là.
Et pourquoi ce serait meilleur ?
C'est très bien digéré par les animaux. Enfin, par exemple, à une époque, Mojo, il mangeait du barf. Donc c'est de l'alimentation crue en fait, parce que il est né avec des problèmes de la thyroïde et il prend assez facilement du poids. Et donc du coup, le vétérinaire nous avait conseillé de le mettre sous un régime de BAF. Et en fait, il avait franchement des problèmes de digestion. Et sans rentrer dans les détails, quand on l'a switché pour des croquettes aux insectes, eh bien, ça allait très très bien niveau transit. Et enfin, franchement, c'est une protéine qui est bien digérée et bien assimilée par les systèmes de nos animaux.
Et puis j'imagine que dans les croquettes conventionnelles industrielles, il y a beaucoup plus de matière grasse. S'ils arrivent à atteindre des coûts assez bas,
Bah, en fait, les matières grasses, c'est quelque chose qui est nécessaire dans les croquettes. Donc, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup plus de matières grasses, mais il y a surtout beaucoup de glucides. Donc, y a, dans les croquettes industrielles, il y a pas mal de céréales. Donc, nous, nos croquettes, elles sont sans céréales, sans conservateur artificiel. On a vraiment essayé de faire une croquette aussi naturelle que possible. Après, il faut forcément rajouter des appétants parce que les chiens et les chats de nos jours qui mangent des croquettes, ils sont tellement habitués à manger des croquettes avec des exhausteurs de goût, des trucs qui les rendent addicts. Enfin voilà. Et donc forcément, nous on essaye de mettre des appétants naturels, enfin qui sont bons quoi. Mais c'est vrai que c'est un challenge niveau goût parce qu'il y a des chats, bah, ils vont bouder nos croquettes parce que ils vont être moins appétants que d'autres marques qui sont ultra bourré de...
Ouais, j'imagine.
c'est comme des bonbons, quoi.
Au niveau de la fabrication de la croquette, il y a un temps de séchage, j'imagine. Comment ça se passe?
Alors,
c'est un long process.
Ça, c'est plutôt du domaine de Paula, qui s'occupe de la production. J'ai pas trop envie de dire de bêtises, mais en gros, la croquette, donc il y a toutes les matières premières qui sont mélangées, qui sont passées à la mélangeuse. Ensuite, on les cuit. On essaye de pas les cuire à une trop haute température parce que plus c'est cuit à une haute température, plus la valeur nutritive diminue. Et ensuite, c'est passé à l'enrobage où on rajoute les appétants, les minéraux. C'est le processus d'extrusion en fait. Donc, la même chose que pour faire des céréales, plein de choses dans l'alimentation des humains.
J'aimerais bien aller dans une usine.
Justement, nous, on y est allé avec Paola. Donc, on a eu la chance d'aller visiter des fermes d'insectes, des usines de fabrication de pet food. Et moi, je suis allée visiter notre fabricant d'emballage en Italie. C'était très, très intéressant. Ouais.
Tout est local au final. Enfin, tout est européen au maximum.
Franchement, on a essayé au maximum de sourcer localement. Après, c'est vrai que pour le packaging, par exemple, impossible de trouver des personnes qui faisaient du packaging pet food biodégradable. Donc, du coup, on a dû aller chercher en Italie. Mais bon, ça va, c'est pas non plus...
Ouais, ça reste proche.
Ouais, ouais.
Qu'est-ce que vous pourriez développer? Enfin, quels sont vos futurs projets? Qu'est-ce que tu pourrais développer de nouveau pour les animaux?
En ce moment, on est en train de travailler sur des friandises, toujours aux insectes. Et c'est vrai que moi, j'aimerais bien développer des produits... je sais que c'est un peu quand mon petit frère lavait Mojo avec du shampoing spécial huile d'argan, je trouvais ça un peu ridicule, mais au moins c'est vrai que de temps en temps il faut laver ses chiens, bon pas les chats parce qu'ils aiment pas l'eau, mais ouais, pourquoi pas développer des shampoings écologiques, ou même des kits à faire soi-même. Il y a un peu une vague en ce moment de faire soi-même ces kits de lessive et tout. Et donc, du coup, je me dis, des trucs dans des verres, des bouteilles en verre, hop, on fait son petit mélange et on a son shampoing pour chien, je trouve ça pas mal. Et après, pourquoi pas des colliers. Ça, je vais révéler une surprise, donc pas que j'en parle.
Ok, on garde le suspense. Ouais. Et toi, quand tu t'es lancée dans des études en environnement, tu te voyais faire quoi plus tard?
Donc avant de lancer Tomojo, j'ai travaillé dans une entreprise qui faisait la compensation d'émissions carbone. Donc c'est vrai que après mon master, je voulais m'engager dans une cause. Franchement, j'avais pas une idée très très concrète parce qu'au début j'ai travaillé dans une banque de développement durable et après banque de développement pardon, c'était même pas durable et après j'ai travaillé pour une entreprise de compensation d'émissions carbone. Donc c'était pour moi c'était important que ça touche à l'environnement, mais je dois avouer que pendant mon travail j'avais un peu un manque d'impact. Enfin, j'avais du mal à voir en fait où est-ce qu'il était l'impact qu'on était en train de créer, puisque en fait ce qu'on faisait c'est qu'on, il y avait des entreprises qui venaient nous voir qui nous disaient voilà, on aimerait offset, je sais pas trop comment on va dire en anglais, en français, nos émissions carbone pour l'année 2016 et on aimerait que ce soit via ce projet-là de reforestation en Amazonie, ce projet-là d'eau pour compenser, mais j'avais un peu l'impression qu'on achetait le droit de polluer en fait, et donc j'avais un peu un problème avec ça. Avec Tomojo, c'est vrai que l'impact il est assez direct quoi. Enfin, Le fait de switcher l'alimentation de ces animaux de compagnie, ben, on a un impact direct. Et ce que j'aime bien avec ce projet, c'est que c'est vraiment c'est direct dans les mains du consommateur de faire des choix. Et ça, c'est un truc que je fais moi personnellement, mais c'est vrai que de pouvoir le faire avec ma start-up, c'est vraiment hyper...
Ouais, c'est pas du tout pareil.
Empower.
C'est beaucoup plus concret.
Ouais.
Tu as parlé tout à l'heure de Ticket for Change. Ça, moi, je connais un petit peu le programme, mais est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs ? Il y a peut-être des auditeurs que ça intéresse.
Ouais. Alors, en fait, Ticket for Change, c'est... comment définir ? C'est un réseau, enfin, c'est un accélérateur qui permet à des personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat social et solidaire. Ça leur donne des clés en fait, parce que c'est vrai qu'on peut avoir des idées de projets sans vraiment pour autant avoir une idée de concrète de comment faire. Et donc là, Ticket, ils ont plusieurs programmes différents. Donc par exemple, il y en a un, c'est plutôt destiné aux personnes qui veulent faire de l'intrapreneuriat. Là, on a participé avec Paola à celui de l'entrepreneuriat, et donc c'était 6 mois, c'était une formule de 6 mois, mais il change d'année en année. Mais nous, quand on l'a fait, c'était 6 mois, et il y avait des séminaires à peu près une fois tous les 2 mois, plus un tour de France de 10 jours. Et ça nous permet de rencontrer des acteurs de cet écosystème. Ça nous permet aussi d'avoir un peu des masterclass, comment faire un business plan, comment faire son premier MVP, donc Minimum Viable Product. Enfin, comment vraiment passer le pas et pas juste...
comment concrétiser la chose, concrétiser ton idée. Et c'est un programme qui est ouvert à tous ?
Ouais, c'est ouvert à tous, jeunes, plus âgés, en situation, en activité, pas activité, des personnes à l'étranger aussi. Enfin, franchement, c'est ouvert à tout le monde et ils sont basés dans le sentier.
D'accord, donc tu as rencontré beaucoup de profils différents ?
Ouais, beaucoup de projets différents. Il y en avait, c'était vraiment porté sur l'économie sociale, donc comment réinsérer les personnes âgées, les handicapés, et après plus, des projets plus à dimension environnementale, donc zéro déchet. Donc on faisait partie de la promotion du drive tout nu, je sais pas si D'accord, ça vous parle, ou de la mode plus éthique comme We Dress Fair. Donc voilà, c'était vraiment un mélange de plusieurs acteurs.
Et c'est une formation ou un parcours que tu conseillerais à des auditeurs qui ont une petite idée
Clairement, si Paola et moi, on n'avait pas postulé, on n'avait pas été prise, on n'aurait jamais lancé Tomojo. En fait, c'est arrivé au point où on voyait tellement de personnes, parce que moi, j'avais encore mon travail à côté, et c'est arrivé au point où on était entouré de personnes qui se lançaient. On s'est dit, pourquoi pas nous, quoi. Alors que si on n'avait pas participé à ce programme, je pense qu'on aurait eu cette idée, puis ça serait parti
au fond des
deux semaines. parce que la vie nous rattrape, on se perd sans salaire et tout. Et c'est vrai que c'est un peu plus difficile si on est dans une bulle. Plutôt, alors que si on côtoie des personnes qui, elles aussi, se lancent, n'ont pas peur. Donc il y avait deux choses, il y avait Ticket et il y avait notre famille qui a aussi été hyper bienveillante et qui nous ont dit, je pense que si vous le faites pas maintenant, vous allez le regretter et vous avez pas grand chose à perdre. Comme Paola dit souvent, on était étudiante, on a eu un an de CDI et on n'avait pas assez eu le temps de s'habituer à notre salaire, on va dire.
Donc, votre confort.
Ouais, notre confort. C'était assez facile en fait.
Et du fait que tu sois franco-anglaise, vous avez lancé Tomojo en France et en Angleterre ou uniquement en France ?
Non, au début, on a lancé en France, notamment à cause de Ticket. Après, on a été prise dans un incubateur dans le sentier, Willa. Donc, c'est vrai qu'on est rentré dans l'écosystème en France et j'ai déménagé à Paris. Donc, ça faisait sens de rester à Paris, même si pour moi, c'était un peu... c'est pas une torture, c'est un grand mot, mais moi je me disais en Angleterre ils sont tellement plus portés sur les protéines alternatives, il y a beaucoup plus de végétariens, beaucoup plus de véganes, ne serait-ce que dans nos cercles d'amis anglais, français, en France je suis souvent la seule à être végétarienne, quoique il y a quand même des amis qui commencent à elles vont me jeter la pierre sinon mais certainement pas les garçons et en Angleterre c'est un beaucoup plus la norme, quoi. Donc moi je pense que ouais, le marché est assez mature. Et en fait il y a deux semaines il y a eu un article de la BBC qui reprenait justement l'étude des vétérinaires anglais sur la protéine d'insectes, et ça nous a ramené plein de commodes de croquettes pour chats. Parce qu'il y a une start-up en Angleterre qui fait des croquettes pour chiens, mais ils ne font pas encore de croquettes pour chats. Donc du coup, ouais, moi je pense qu'il y a vraiment un marché, mais chaque chose en son temps. Enfin, déjà, on fait bien le marché français et après, on ira s'implanter en Angleterre. Mais pour l'instant, on expédie en Angleterre, donc les gens, ils peuvent acheter. Mais c'est juste qu'on ne fait pas plus d'efforts en communication. Enfin, voilà, quoi.
Oui, il n'y a pas cette volonté pour l'instant d'être implanté dans les deux pays. Et en France, vous êtes distribué dans des magasins, des vétérinaires. Comment ça se passe ?
Alors, pour l'instant,
Internet.
On vend sur notre e-commerce, notre site internet tomojo.co, et on a aussi, on a quelques points de distribution fixes, notamment des magasins vrac. Franchement, ça nous tient à cœur d'être distribué en vrac parce que c'est dans
le moins de
ce qu'on propose. Donc du coup, par exemple, nos amis du Drive Tout Nu vendent nos croquettes près de la région de Toulouse. On a quelques points dans la France, mais c'est un peu anecdotique pour l'instant. Mais c'est vrai que sinon on a des personnes, par exemple aux États-Unis, au Canada, qui sont intéressées aussi pour commercialiser nos produits. Donc ça, c'est pour la recette Tomojo. Et ensuite, en parallèle de ça, on va aussi lancer une marque vétérinaire. Et donc, elle sera spécialement distribuée chez les vétérinaires.
D'accord. Parce que la différence, c'est quoi ?
C'est une croquette qui a des ingrédients légèrement différents. Il y a un peu plus de protéines dans la recette vétérinaire. Il y a des ingrédients qui favorisent un peu plus la digestion. C'est plus un alicament. Qu'un aliment de tous les jours comme Tomojo.
D'accord, mais toujours à base d'insectes.
Ah oui, toujours à base d'insectes.
Vous ne dérogerez pas à la règle.
Non.
Alors Madeleine, on va passer aux petites questions de fin. La première, c'est: est-ce que tu penses souffrir d'éco-anxiété ? Est-ce que tu crois que l'avenir de la planète, des humains, t'angoisse ?
Grande question. Oui. C'est un sujet qui revient assez souvent pour moi. Et d'un côté, je me sens vraiment à ma place parce que je trouve que je contribue à aider à faire bouger les choses dans le bon sens. Mais d'un autre côté, j'ai un peu la question qui me revient, c'est: est-ce que j'ai envie d'avoir des enfants et de leur transmettre cette planète qui est franchement en train de brûler ? C'est une grande question pour moi. Et d'un autre côté, je me dis, il vaut mieux que j'ai des enfants et que je puisse les éduquer et que je puisse les rendre un peu des eco-warriors, que je leur donne envie de faire quelque chose eux aussi. Mais je pense que je souffre d'éco-anxiété.
Si tu pouvais changer quelque chose là tout de suite en claquant des doigts, que ce soit pour Tomojo, pour toi, pour la planète, peu importe, qu'est-ce que tu ferais ? Si tu avais ce super pouvoir.
Ouais, je pense que je serais vraiment pas très populaire si je faisais ça. Mais je pense que je taxerais la viande. Pendant mes études d'économie, j'avais fait une étude statistique sur la viande. Et je pense que si on taxait la viande, si on taxait la production industrielle en masse de la viande, je pense que ça réglerait pas mal de nos problèmes. Ou du moins, si on prenait en compte les externalités négatives de la production de la viande dans le prix de la viande, dans le supermarché, chez les bouchers, je pense que ça nous aiderait.
Ouais, je suis d'accord. Ça fait longtemps que tu es végétarienne ?
100% végétarienne, ça fait un an. Et avant ça, quand j'étais à l'université, j'avais des phases vegan, flexitarienne, végétarienne. Enfin, j'ai toujours un peu oscillé entre les trois.
Mais tu as toujours eu conscience de l'impact de la
viande.
Ouais,
et en fait... Quand j'habitais en Angleterre, quand j'étais petite, il y avait la maladie de la vache folle. Du coup, ma mère, elle me donnait quasiment pas à manger de la viande. Et ça a un peu resté avec moi. J'apprécie, franchement, j'aime bien la viande rouge. Hein, ma famille française, elle vient du sud-ouest, donc on aime bien le magret de canard et compagnie. Je m'en passe très bien. Les repas végétariens/vegan, ils ont vraiment mauvaise presse en France. Parce qu'en Angleterre, il y a quand même des trucs assez excitants. Enfin, je sais pas, les gens, ils sont un peu moins déprimés. J'ai l'impression qu'ici, quand on dit qu'on fait un dîner végétarien, tout de suite, c'est « Oh non, enfin, qu'est-ce qu'on va manger ?» Ouais. Les gens manquent un peu de créativité. Donc, enfin, non, ça, c'est un peu dur pour les personnes qui montent des entreprises comme Funky Veggie ou... Veg-up, enfin voilà, il y a plein de startups qui essaient de démocratiser le fait que on peut très facilement manger des choses végétariennes / véganes et que c'est bon et que c'est excitant et que c'est nutritif et que c'est satisfaisant en fin de compte. Mais ouais, je pense qu'il y a quand même une énorme barrière qu'un plat, un vrai repas, c'est de la viande. Dans ma famille française, c'est ça, quoi.
Ça, c'est clair. Et pourquoi tu penses qu'il y a autant de différences entre les British et les Français, justement, sur ce point de vue-là ?
Bonne question.
En Angleterre, il y a ce côté plus libéré. Tu vois, moi, j'ai toujours trouvé que quand tu te balades à Londres, tu peux être habillé n'importe comment, franchement, ouais. En peignoir, avec un chapeau de paille.
Ouais, les gens, ils s'en fichent.
Tout le monde s'en fiche.
Ouais, je pense qu'il y a peut-être un élément, c'est ça. Il y a un autre élément, certaines de mes amies françaises diraient que si je suppose que leur nourriture est dégueulasse. Mais moi, ce n'est pas vrai. Moi, je pense aussi qu'ils sont un peu plus touchés. Enfin, en tout cas, ils regardent un peu plus la vérité en face. Pour tout ce qui est conditions d'élevage des animaux. J'ai un peu plus l'impression que les personnes en France, ils veulent pas trop savoir ce qui se passe dans les abattoirs, dans les fermes d'élevage. Ouais, peut-être qu'il y a un peu une volonté de pas regarder la vérité en face. Mais attention, pas tout le monde, encore une fois.
Oui, bien sûr.
Par exemple, le journaliste Hugo Clément, il communique vachement là-dessus. Et on l'aime ou l'aime pas, mais moi je trouve que
c'est
hyper important de diffuser l'information.
Bon, après, en Angleterre, ils sont pas parfaits. Leurs légumes sont très souvent emballés en plastique.
Ça, c'est sûr. Et par contre, sur tout ce qui est zéro déchet, ils sont complètement à la masse. Mmh. Complètement.
Donc bon.
Ouais, chacun.
Parfait. Eh bien, merci beaucoup. C'était très intéressant. J'indiquerai bien évidemment dans la description de l'épisode toutes les infos vers votre site, vers Ticket for Change et tout ça, tout ce qu'on a mentionné pendant l'épisode. Et puis, je voulais quand même préciser que sur votre site, on peut commander des petits échantillons de croquettes pour faire tester à son chat ou à son chien. Et donc, ça évite aussi le gâchis. Parce que moi, je me suis retrouvée plusieurs fois avec des paquets de croquettes pour chats sur les bras, avec un chat qui n'en voulait pas. Et j'ai fini par les donner, mais voilà.
Ouais.
Si ça peut éviter de finir à la poubelle et acheter un petit paquet d'échantillons, c'est quand même mieux.
Super. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à toi. À très bientôt.
Et voilà, cet épisode est déjà terminé et j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager avec vos proches, vos amis et vos collègues. Vous pouvez également laisser un avis sur la plateforme d'Apple Podcast. Cela permet de faire découvrir le podcast à de nouveaux auditeurs. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très bientôt !